Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
21 gigawatts, mon Dieu!
Recherche, Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamie, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Vent Renault Modus Diesel, 5 portes, modèle 2005, 134 km au compteur, bon état général, prix à débattre. Entre l'exil progressif des motorisations diesel, l'étiquetage critère et la prime au modèle hybride, voire tout électrique, la voiture d'hier n'a plus trop sa place dans le monde d'aujourd'hui. Alors autant prendre un créneau d'avance et s'intéresser directement à la voiture que nous conduirons demain ou pas. Heureuse coïncidence, en ce mois d'octobre 2018, le mondial de l'auto est l'occasion rêvée de faire un tour de circuit en 2030. Pendant que vous êtes confortablement assis dans le siège passager, Olivier Hertel et Arnaud de Villard se partageront le volant. J'espère ne pas dire de bêtises en disant d'Olivier que vous écrivez dans Science et Avenir sur tout ce qui concerne l'innovation et les technologies, y compris automobiles.
Voilà.
Je continue sur ma lancée, toujours chez Science et Avenir. Arnaud, vous êtes le spécialiste IA, algorithmes et data.
Voilà, c'est ça.
Super. Messieurs, bonjour et bonjour. Bienvenue dans cet épisode bonjour. De Sixième Science, sans conducteur, ou presque. On démarre direct en sixième vitesse. Olivier, Arnaud, votre dossier s'articule clairement en deux parties. D'un côté, la technologie du moteur à hydrogène, de l'autre, la voiture autonome. Pour vous, est-ce que ce sont vraiment les deux grandes tendances qui dessineront la voiture de demain ?
Oui, clairement, en fait, c'est les deux axes forts qu'on a choisis, parce qu'on voit bien que c'est sur ces deux points-là qu'on va avoir de grandes nouveautés en termes de... sur la façon dont elles vont être alimentées, de manière plus propre, et la façon dont on les conduira ou on ne les conduira pas, justement.
Et on a bien vu qu'au printemps, là, ça procède même d'une volonté politique, puisque le gouvernement a sorti un rapport qui doit définir un peu sa feuille de route sur les années à venir, sur la voiture autonome, sur quand lancer des tests, comment revoir la réglementation existante pour favoriser ce genre de véhicule. Donc on sent qu'il y a, voilà, il y a à la fois les avancées technologiques et une volonté politique derrière.
Je vois le moteur.
Il est derrière le moteur.
Ah, excusez-moi, je crois que...
Je vais embrayer justement sur la question du moteur à hydrogène. La promesse est assez belle en soi, donc la source d'énergie ou la ressource de départ, l'eau, et potentiellement aucune émission polluante. En fait, moi je suis un peu surpris de ne pas en avoir entendu parler plus tôt. Qu'est-ce qui fait que ce dossier, ou en tout cas ce sujet, n'arrive que maintenant sur la table ?
Alors pour être honnête, ça fait un moment qu'on en parle, c'est-à-dire que ça revient régulièrement. La solution du moteur à hydrogène, c'est évidemment une bonne idée puisque ça permet d'avoir zéro émission en opération, c'est-à-dire dans la circulation. On y revient régulièrement, mais à chaque fois, on est toujours confronté au problème du modèle économique, du coût, est-ce que ça va être suffisamment rentable. Mais aujourd'hui, on a quand même une forte poussée des préoccupations environnementales qui fait que ça la remet encore au goût du jour. Et cette fois, c'est peut-être la bonne, du moins on l'espère.
Ok, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais il n'y a pas de lobby effectivement de la part des producteurs de pétrole et des constructeurs automobiles pour rester encore quelques années ou quelques décennies sur nos beaux vieux moteurs classiques.
Alors évidemment, tout le monde n'a pas forcément envie de voir une voiture à hydrogène, mais ce qui change pas mal, c'est qu'aujourd'hui il y a des espèces de consortiums qui se sont créés et qui réunissent des constructeurs automobiles, des gaziers, mais aussi des gens du vieux monde, on va dire, en fait, des hydrocarbures. Et un exemple assez simple, c'est Shell, qui est une compagnie pétrolière, qui est particulièrement engagée dans le développement de la voiture hydrogène, au point de produire lui-même des rapports assez enthousiastes sur l'avenir de cette technologie.
Jolie voiture. Dommage qu'elle soit aussi sale.
C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ?
Alors, effectivement, on parle des producteurs et la France, en fait, là-dedans. Dans votre dossier, si j'ai bien lu, vous estimez que le marché de l'hydrogène représenterait environ 40 milliards par an et 150 000 emplois. Le ministre de l'écologie d'alors, Nicolas Hulot, avait promis un plan hydrogène et de gros investissements. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, concrètement, en France, sur cette question ?
Alors, effectivement, ça, ce sont les études qui prévoient donc un marché colossal pour l'hydrogène, et non seulement en termes de milliards d'euros, mais aussi en termes d'emplois, donc ce qui peut intéresser les politiques. Nicolas Hulot, il y a quelques mois, annonçait ce fameux programme où il promettait 100 millions d'euros en 2019. Donc, on en est là aujourd'hui. Les 100 millions d'euros sont actés, donc on va voir comment ils seront ventilés en 2019. Mais en tout cas, le processus est bel et bien lancé.
Et du côté des constructeurs, les constructeurs français, ils ont pris le pli ?
Alors, les constructeurs français, ils sont un peu absents aujourd'hui de ce créneau-là. Il y a eu quelques déclarations il y a quelques mois de PSA lors d'une assemblée générale qui indiquait qu'il y avait une envie d'aller un peu sur la voiture hydrogène. Mais pour le moment, on n'a rien vu. Renault est à fond sur la voiture électrique, mais on sait qu'il peut aussi compter sur Nissan qui a pas mal développé cette technologie-là. Mais par contre, là où ça se passe, c'est essentiellement au Japon avec des constructeurs comme Toyota et aussi en Corée, avec Toyota pardon, et Honda, en Corée avec Hyundai qui est bien engagé. Toyota a déjà commercialisé un produit, une voiture, la Toyota Mirai. Et Hyundai aussi a sa propre voiture qui commence à être commercialisée.
Ouais, donc c'est plutôt, on avance, on va dire, sur cette piste. Hein.
On change d'échelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans une situation où on envisage d'industrialiser ce qui, jusqu'à présent, était plutôt un prototype, limite un produit de laboratoire. Donc là, on a vraiment des gros constructeurs, les premiers mondiaux qui s'engagent fortement sur le sujet, qui commencent à industrialiser, puis il y en a d'autres qui arrivent derrière. Mercedes aussi arrive, donc ça va suivre.
Alors les Bavaroises, ça marche ? Toujours en tracteur ?
La voiture, vous l'avez prise à l'armée allemande, c'est la guerre. Mais la beauté, elle est à moi.
Moi, en lisant votre dossier, j'ai vite vu que la vraie question centrale, c'était celle de la production de l'hydrogène. Alors, je me disais, bon, il suffit d'extraire de l'eau l'hydrogène et paf, on aura de quoi faire tourner le moteur. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein.
Alors, la production d'hydrogène, c'est le point dur, on va dire, de cette technologie-là. C'est qu'aujourd'hui, produire de l'hydrogène, c'est très polluant. Donc, il n'y a aucun intérêt de faire une voiture à hydrogène si la production d'hydrogène est elle-même très polluante. Ça serait même catastrophique. On la produit aujourd'hui à partir d'un hydrocarbure, enfin du méthane, du gaz naturel, et ça produit énormément de CO2, donc c'est vraiment pas bon pour l'environnement. L'idée à terme, c'est d'arriver à produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Et là, la solution, ça serait prendre de l'eau, H2O, casser cette molécule d'eau, donc récupérer H2, l'hydrogène, et à partir de là, l'utiliser pour la voiture hydrogène. Le problème, c'est qu'il faut de l'énergie pour casser cette molécule d'eau. Et là, l'énergie, l'idéal, et c'est pas encore le cas, ça serait de la puiser dans les énergies renouvelables du solaire ou de l'éolien. Mais on n'en est pas là.
Ok. C'est à échelle 2030, 2050, quel est le...
Tout va dépendre des investissements, de l'engagement des industriels dans cette filière-là. Mais on peut imaginer que ça va se faire très progressivement. C'est-à-dire qu'on peut déjà commencer à utiliser la voiture hydrogène en ville et du coup avoir un gain sur le confort des gens en ville, tout simplement parce qu'on va réduire la pollution atmosphérique dans les villes grâce à ça. Et puis petit à petit, décarboner de plus en plus la production d'hydrogène. Et ça prendra sûrement peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'en sait pas.
Il y a une autre question autour de ça, c'est aussi celle de la sécurité, parce que quand on parle d'hydrogène, on parle donc d'un gaz qui est potentiellement très instable et dangereux. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour protéger, on va dire, l'automobiliste et ses passagers dans ces conditions-là ?
On devrait peut-être y aller en voiture, ce serait sympa, tu dirais.
Allez, détends-toi, on dit que le décollage, c'est le plus dur.
Ah ouais ?
Alors là, justement, les industriels et les constructeurs ont prévu le coup. L'hydrogène, c'est un gaz qu'on manipule depuis très très longtemps, donc on sait le manipuler facilement. Et aujourd'hui, pour faire son plein d'hydrogène, tout un tas de mesures de sécurité ont été prises. Le pistolet qui va être accordé à la voiture doit être parfaitement étanche. Si jamais il y a la moindre petite fuite, l'hydrogène ne pourra pas passer dans la voiture. On vérifie la pression d'hydrogène à l'intérieur du réservoir pour être sûr qu'il n'y ait pas une baisse de pression qui pourrait signaler une fuite éventuellement d'hydrogène. On vérifie aussi la température de l'hydrogène dans le réservoir qui signerait aussi un petit problème. Et on ne peut pas partir avec la voiture et le pistolet accroché sur le réservoir. Et donc on risquerait d'arracher le pistolet. Dans ce cas-là, même si on arrivait à démarrer, c'est-à-dire que la voiture est prévue pour ne pas démarrer dans cette situation-là. Mais même si on arrivait à démarrer, je ne sais pas comment, en fait, le pistolet se couperait et une vanne fermerait en fait l'arrivée d'hydrogène. Donc il n'y a pas non plus de risque sur cet aspect-là.
Bon, la question suivante, elle est assez évidente, c'est celle du coût. J'ai cru comprendre que les voitures étaient quand même assez chères, enfin en tout cas les premiers modèles. Quand est-ce qu'on arrivera à des voitures, on va dire, plus accessibles, autour de 15, 20 000 euros ? C'est pour bientôt ?
Alors, effectivement, aujourd'hui, le prix de ces voitures, c'est exorbitant. On est plutôt autour des 60, 70 000 euros, donc c'est vraiment pas imaginable en l'état de commercialiser, enfin d'acheter ce genre de voiture. Donc il y a soit des mesures d'aide, des subventions qui sont prévues dans certaines régions, notamment Auvergne-Rhône-Alpes. Et on peut aussi compter après sur l'industrialisation, sur l'effet de l'industrialisation et donc du coup sur la réduction des coûts. Évidemment, c'est sur ça que comptent le plus les industriels et les constructeurs. Mais une étude déjà menée par Shell montre en fait que d'ici 20 à 30 ans peut-être, le coût en fait d'utilisation, de possession entre guillemets sera équivalent à celui d'une voiture thermique.
Il y a aussi le coût d'utilisation. Enfin, en gros, un plein d'hydrogène, c'est quoi ? C'est 4-5 litres, hein, c'est ça ?
C'est plutôt autour de 5 litres, mais c'est difficile de comparer. Je pense qu'il faut plus comparer en termes d'autonomie. C'est-à-dire que ça vous permet de faire environ entre 500 et 700 kilomètres. Sachant que dans les réservoirs, là aussi, qui sont extrêmement sécurisés, l'hydrogène, lui, est compressé à 700 bars. C'est énorme, c'est 700 fois la pression de l'atmosphère. Donc c'est considérable comme pression.
C'était... Vous venez de flinguer un hélicoptère avec une voiture ?
J'avais plus de balles.
Du côté des infrastructures, ça va aussi demander des efforts qui sont assez conséquents, dans les stations-service, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est entrepris en ce sens ? On évoquait tout à l'heure peut-être l'exemple de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a déjà des stations
Oui, alors c'est aussi un des enjeux clés. C'est s'il n'y a pas de station hydrogène, il n'y a pas de voiture. S'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de station hydrogène. D'où l'intérêt de ces consortiums en fait, qui se sont créés, qui réunissent à la fois des gens qui font des stations et des gens qui font des voitures. Donc du coup, l'idée, c'est de s'entendre sur ce développement-là de manière simultanée. Je fais tant de stations, tu vends tant de voitures. Tu vends tant de voitures, je fais tant de stations, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est d'arriver à créer un écosystème favorable au développement de cette technologie.
Parce que c'est vrai que moi, quand j'entends hydrogène, je pense GPL. C'est une solution qu'on avait présentée vraiment comme idéale il y a quelques années. Et au final, le parc ne s'est pas réellement installé ou l'installation était trop chère, tout simplement. Il n'y a pas de risque que l'hydrogène connaisse le même destin, peut-être pas funeste, mais moyen.
Le GPL n'avait pas les mêmes avantages qu'a l'hydrogène aujourd'hui. C'est vraiment pas comparable. Et en plus, aujourd'hui, l'hydrogène est aussi confronté à une autre technologie, c'est celle de la voiture électrique basique. Enfin, basique, basique, c'est-à-dire avec une batterie, celle que tout le monde connaît. Or, on sait que sur cette technologie-là, on a des problèmes d'autonomie, on a des problèmes aussi peut-être de coût et d'usage. Donc, on se dit, finalement, l'hydrogène, ça serait peut-être une bonne solution. Donc, on voit plutôt beaucoup d'avantages dans la voiture à hydrogène, plus qu'on aurait pu en voir dans le GPL, qui restait quand même une voiture relativement polluante. Et donc là, on se dit, c'est peut-être la bonne solution, mais il y a quand même des verrous à faire sauter, et ces verrous, on les a évoqués, donc c'est la production d'hydrogène, l'infrastructure, les stations, le nombre de voitures, etc.
Ouais, donc,
on n'y est pas encore, voilà. Complètement, mais on a l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne.
Et maintenant, le savant fou et moi, va falloir qu'on démonte tout le moteur et qu'on remplace les segments de piston que t'as grillés.
Donc on continue notre trajet sur l'autoroute du futur. Là, Arnaud, je me tourne vers vous. La question de des voitures autonomes, elle est assez cruciale aujourd'hui. On a vu il y a encore pas très longtemps des accidents où la voiture était impliquée ou pas impliquée. Mais bon, elle était quand même partie, on va dire, de cet accident. Quand est-ce que cette question de la sécurité sera réglée autour des voitures autonomes ?
C'est comme s'il y avait une prise de conscience cette année où... notamment à cause de l'accident qui avait eu lieu en Arizona. Quand Google a commencé ses premiers tests en 2009, voiture autonome, à partir de là, c'est devenu un truc, Google s'y met, très bien. Et d'une certaine manière, dans l'esprit du grand public ou dans les discours un peu latents, je ne parle pas des chercheurs, hein, c'était un peu, il y a un jour, il y aura la voiture autonome et c'est plié, quoi. Dans 10 ans, dans 15 ans, c'est bon. Et tout d'un coup, on a ces accidents, dont celui-là qui est très grave, première fois qu'un piéton se fait tuer par une voiture autonome, qui était quand même censé... par définition, le repérer et l'éviter. Et on se dit, apparemment, il y a des problèmes. Apparemment, il y a plein de choses à régler. Et effectivement, aujourd'hui, on ne dit plus la voiture autonome, c'est pour demain. Enfin, quand je dis voiture autonome pour demain, c'est-à-dire voiture autonome utilisée par monsieur tout le monde, dans la circulation, par toutes les conditions possibles. Donc ça, on ne sait pas, c'est 2030, 2040.
Votre voiture est une pure merveille mécanique et la mienne, c'est une merde.
Moteur capote, push please, push.
les Tesla ne sont pas des voitures autonomes. Il y a effectivement un mode autopilote qui peut être utilisé dans certaines conditions de vitesse régulière améliorée. Et effectivement, avec ce discours sur la voiture autonome, certains utilisateurs prennent ça pour une voiture autonome. Et en particulier, certains accidents ont été clairement dus au fait que les gens assis dans les voitures croyaient être dans une voiture autonome qui pouvait tout faire. Donc certains lisaient le journal, d'autres jouaient à des jeux.
Regardez Harry Potter, je crois que c'était ça. Hein,
donc c'est, voilà. C'est souvent la faute des gens. Voilà. Même l'accident de Tempe en Arizona, en fait, on s'achemine vers l'opérateur qui était à bord de la voiture aurait dû faire autre chose que ce qu'elle faisait. Quoi. Donc, bon, on ne sait pas quelle est la part de fait, la part, j'allais dire, d'idéologie. Peut-être pas aller jusque-là, mais il y a quand même une volonté de faire développer ces véhicules. Et donc, on sent que ces accidents, ça gêne un peu. Quoi. Mais la sécurité, 100%, ça, on ne peut pas. Et déjà, même les chercheurs vous diront qu'il n'y aura pas 100% de sécurité.
Alors, on a évoqué la question de la sécurité, mais en lisant votre dossier, il y a vraiment deux éléments qui ressortent en tant que gros obstacles, j'ai l'impression, à l'essor de ces véhicules. C'est la question du mauvais temps et des routes de campagne. Alors moi, j'étais assez surpris en voyant ça, notamment sur la question des routes de campagne. C'est ça, c'est qu'il y a une vraie question autour des infrastructures et de l'autonomie technique des véhicules.
La plupart des tests de voitures autonomes qui sont faits en situation réelle, c'est-à-dire voilà, au milieu des autres voitures, ça se passe dans les grandes villes et sur les grands axes. C'est parce que c'est là qu'il y a un maximum d'infos, c'est là où les voitures sont entraînées à repérer les carrefours, à repérer des situations complexes, à s'entraîner sur le marquage, les panneaux de signalisation. Donc tout ça, au bout d'un moment, elles savent faire. Parce qu'elles voilà, elles ont été ce qu'on appelle entraînées, quoi. Et ces tests-là ne sont pas faits sur les routes de campagne parce que c'est trop compliqué. On ne peut pas tout faire. C'est pas une priorité, surtout. Voilà, exactement.
On a connu toutes les sortes de pluies possibles. La toute petite pluie fine cinglante, la grosse pluie d'averse, la pluie battante de côté, et certaines fois même une pluie qui semblait venir d'en dessous.
Et l'autre question, c'est celle du mauvais temps. Effectivement, c'est en gros comment se repérer quand il y a de la pluie, de la neige. Ouais. C'est un peu ça. Hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là où l'œil humain va corriger tout seul quand il y a de la pluie sur le pare-brise ou à travers les phares, la voiture autonome ne sait pas faire. C'est-à-dire que si vous avez un flocon de neige qui traverse les phares, vous savez, il y avait ces fameuses traînées blanches. Nous, on sait que c'est une traînée blanche due à la lumière qui se reflète. La voiture autonome, elle peut très bien croire prendre ça pour un obstacle et prendre une décision de piler, de s'écarter. Toutes ces particules d'eau, de neige, etc., perturbent la diffusion de la lumière et donc perturbent l'interprétation que l'intelligence artificielle de la voiture va faire de la scène. Et ça, c'est très problématique parce qu'effectivement, si elle ne sait pas repérer dans quel environnement elle est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, elle va prendre les mauvaises décisions.
Et du coup, quelle est la piste principale privilégiée pour justement contrecarrer les flocons de neige et autres obstacles auxquels on ne pense pas ?
Il y en a deux principales. Il y en a une qui est c'est entraîner les voitures, c'est-à-dire les entraîner à rouler sous la neige, à ce qu'elles reconnaissent la neige, à ce qu'elles arrivent à distinguer ce qu'est la neige ou la pluie ou le brouillard de ce qu'est l'environnement, on va dire statique. Donc voilà, avec des algorithmes de plus en plus puissants, de plus en plus performants. Il y a cette méthode-là et elle est beaucoup testée ces derniers temps. Tout cet hiver, il y a plusieurs. Il y a Google, il y a des chercheurs finlandais, des chercheurs irlandais qui se sont mis. Voilà, on va faire rouler des voitures sous la pluie et sous la neige. Donc c'est en cours. Et il y a une autre technique qui est un peu plus complexe, qui est en fait c'est fabriquer concevoir des algorithmes, des systèmes d'intelligence artificielle qui vont éliminer la neige. C'est-à-dire que par un savant système de désactivation de certains rayons lumineux, au moment où une goutte va intercepter un rayon lumineux, ce rayon lumineux du phare va être coupé pour se réallumer juste après, pour continuer à... Donc tout ça, ça se fait à l'échelle de millisecondes. Le résultat, c'est que, on va dire sur l'écran ou sur ce que va voir la caméra, il n'y aura pas ou peu de pluie ou de neige.
C'est bien, ça, comme voiture.
Je viens de voir Iron Man, ça m'a donné envie.
Une autre technologie sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un instant, l'idée c'était d'équiper peut-être les voitures, éventuellement même d'un radar, pour qu'elles aient une connaissance un peu plus conséquente de leur environnement. Et c'est ça justement qui pourrait être utile sur des routes de campagne, des sentiers qui ne sont pas forcément balisés et facilement repérables.
C'est une piste qui est très explorée ces derniers temps et qui était très peu au tout début des projets de voitures autonomes, notamment chez Google, ce qu'on appelle la coopération entre véhicules, soit entre eux, soit avec des infrastructures routières. Qui vont effectivement donner des infos À l'avance, par exemple. Imaginons une file de voitures. La voiture de tête, elle repère un obstacle, elle repère un camion ou un accident qui arrive en face. Les voitures derrière ne le savent pas encore. Mais elle, elle peut déjà communiquer l'info. Ce qui permet à des voitures d'élargir presque leur champ de vision à des éléments qu'elles ne voient pas encore. Donc ça, c'est une piste qui est explorée. Mais on peut très bien imaginer ça, même avec les piétons ou les cyclistes, avec le smartphone. C'est-à-dire que voilà, un piéton qui s'apprête à traverser, qui peut activer... smartphone pour avertir la voiture qui capte le signal, donc du coup qui va réagir en fonction. Donc il y a pas mal de recherches aussi là-dessus. Et en ce moment même, vous avez Intel, donc le fabricant de puces, qui fait circuler des voitures pour qu'elles enregistrent des infos sur les routes, sur comment sont faites les routes, et pour que les voitures à terme s'échangent ces infos. Tiens, là il y a un accident, là il y a un nid de poule, là il y a la route est barrée, et cette info circulera en temps réel entre les différentes voitures par le biais des communications sans fil.
Moi, ce qui m'étonne en écoutant ça, c'est de se dire que les informations pourraient être partagées entre une Citroën et une Renault et éventuellement une Porsche. Enfin, du côté des constructeurs, il y a une vraie coopération qui pourrait potentiellement se mettre en jeu.
Ils n'ont pas trop intérêt à ne pas coopérer. Puis surtout que là, ce dont on parle, c'est presque plus du ressort du constructeur. C'est des outils hardware ou logiciels avec lesquels travaillent effectivement les constructeurs, mais qui sont, Intel travaille avec tout le monde, ou Nvidia aussi. Il y a des technologies de voitures autonomes qui sont utilisées, qui sont les mêmes un peu chez tout le monde, qui ont les mêmes fournisseurs. Après, chacun travaille sur ses algorithmes, etc. Puis surtout, voilà, si l'enjeu, c'est la sécurité, et surtout, augmenter, c'est important, le taux d'acceptabilité de ces véhicules, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop comment les gens vont percevoir ça, comment réagir. Donc, il ne faut surtout pas s'amuser à chacun sa techno, chacun dans son coin. Non, au contraire, je pense que l'enjeu, c'est justement ça, c'est faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens. Quoi.
Les filles, commencez à démonter la roue, j'arrive tout de suite.
Il est gonflé.
Et c'est un enjeu à échelle justement 2030 peut-être pour qu'il y ait la commercialisation des premiers vrais véhicules autonomes ou comment ça va se passer ?
En fait, l'inconnu. Alors effectivement, les horizons 2030, c'est 30-40, c'est souvent ce qui est évoqué, mais en fait, l'autre inconnu, c'est surtout qu'est-ce qu'on va vraiment mettre en service ? Parce que c'est pas sûr que ce soit le véhicule particulier, autonome qui va être prioritaire, par exemple, dans la commercialisation, mais par contre, ce qu'on appelle l'autopartage, alors une voiture autonome, mais qui pourrait être utilisée par plein de gens, un peu comme un bus qu'on convoquerait, qui viendrait chez soi, mais puis qui serait réutilisé par quelqu'un d'autre dans la journée. D'ailleurs, Uber, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, il y a aussi les usages aussi qui sont encore en suspens. Quoi. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va prendre d'abord. Quoi.
Mon obsession pour les automobiles propres et le fait que je ne fume pas, j'ai bien conscience que cela a pu voir.
Ouais, mais moi, je suis comme ma voiture. Je suis sobre sur la route et je consomme en ville.
On a pas mal évoqué justement et les moteurs à hydrogène et les voitures autonomes. Quand est-ce qu'on peut imaginer justement la convergence entre ces deux technologies qui, on a l'impression, évoluent séparément pour l'heure, mais sont promises toutes les deux un destin qui est assez, assez intéressant ?
Ces deux technologies soulèvent la même question, c'est qu'en fait, le monde de l'automobile change complètement. C'est-à-dire que tout ce sur quoi on était assis tranquillement depuis des décennies, en termes de technologie, en termes d'usage même, c'est en train de radicalement changer. Et honnêtement, je ne sais pas si les constructeurs auto étaient à la base réticents, pas réticents. Mais on sent que là, c'est bon. C'est acquis. Tout le monde sait que ça va changer, qu'il faut modifier à la fois la façon de faire avancer une voiture, que l'intelligence artificielle rentre dans les voitures, en tout cas la connexion, la connectique. Et donc, voilà, c'est fini la voiture de 1950 au pétrole. Voilà, ça prendra peut-être du temps, mais...
Donc je fais bien de vendre ma Modus, quoi.
Oui, mais la voiture n'est pas morte, attention.
Oui, voilà, c'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de voiture, c'est ça le truc.
Au contraire, il pourrait y en avoir davantage.
Ah ben oui, c'est... Oui.
Il pourrait y avoir davantage, il pourrait y avoir d'autres usages. On parle de voitures volantes aussi, de taxis volants. Donc on peut imaginer une complexification incroyable de la mobilité. Et ça, on commence déjà à le voir.
Eh ben, on termine sur une note, effectivement, où on s'est projeté au-delà même, je pense, de 2030. Alors, vous pouvez éteindre le moteur, tirer le frein à main, le tour de circuit est terminé. À moins d'avoir, on a dit, 50 000 ou 70 000 euros sous la main, la voiture de demain, qu'elle soit hydrogène ou autonome, reste une affaire de privilégié. Et c'est ça qui est intéressant. L'heure est surtout aux essais et aux prototypes. Olivier Hertel et Arnaud De Villard, merci d'avoir pris la route avec nous. Je rappelle que vous êtes tous les deux journalistes sur les sujets d'innovation à Science et Avenir.
Merci.
revoir.
Amis poditeurs, on vous donne rendez-vous chez votre libraire si vous voulez en savoir un petit peu plus, ou dans un mois, dans notre prochain épisode de 6ème Science. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page iTunes pour vidanger votre amour pour nos contenus en nous laissant quelques étoiles. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez également nous écrire à audio@20minutes.fr. A très bientôt, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
2,21 gigawatts, mon Dieu! Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
6ème Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.